Ok, Jean chapitre 12, verset 1. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Et là, on lui fit un repas. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandant sur les pieds de Jésus, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Dès le début, c'est une des images les plus précieuses de cette semaine finale. Et des choses qui sont assez remarquables, c'est que Jésus sait qu'il y a seulement ces six jours avant sa mort. Pour tout le monde, c'est juste six jours avant la Pâque, mais Jésus savait ce qui allait se passer. Et donc, sachant qu'il y a tout à faire, tout à dire, les derniers discours, il prend le temps de passer à Béthanie et de manger avec cette famille qu'il aime tant. Et c'est absolument c'est incroyablement beau, parce que c'est Jésus et ses trois. Et notez bien comment les trois sont à nouveau à leur place habituelle. On a Lazare, qui est connu comme l'ami de Jésus, assis à côté. On a Marthe qui le sert. On a Marie qui loue. Et il y a comme cette harmonie établie. Jésus est là pour passer un moment ensemble. C'est sympa parce que il donne cette fête pour lui en son honneur de gratitude. Ça rappelle justement que dans le livre des Lévitiques, que un des sacrifices qu'on peut donner, c'est un sacrifice de louange ou de paix. Quand le Seigneur fait quelque chose pour nous, on peut amener son bœuf ou son animal, et puis on l'amène au prêtre, et le prêtre le prépare pour le sacrifice, et il y a ce partage. Le prêtre, il a sa part, la famille, et puis il y a la fumée agréable à Dieu, et c'est symbolique d'une festin que Dieu agrée, où le prêtre, Dieu, la famille, tout le monde est rassasié et joyeux grâce à ce bienfait et ce sacrifice. Et là encore, nous voyons un petit peu la même chose. Jésus qui est le sacrificateur, bien sûr, mais aussi Dieu. Et peut-être c'est pour ça justement qu'il prend le temps de le faire. Bon, on peut très bien imaginer s'il n'avait pas le temps. Mais il avait le temps. Et il a le temps. C'est ça ce qui est absolument merveilleux. C'est qu'il a le temps. Qui que nous sommes, si nous voulons préparer notre repas de remerciement, de sacrifice, de louange, de festin, de louange pour lui, il a le temps. C'est justement l'inverse. Et ce qui est bien, c'est que ça se passe également pour chacun. Lazare, qui a plutôt l'habitude d'être à côté de lui, Marthe, qui montre son amour dans son service. On a Marie aussi. Il y a tout le monde. Le Seigneur les éteint ou les touche là où chacun est, naturellement. Et il y a cette paix, il y a cet esprit. C'est le Seigneur, donc, qui règne. Mais il y a quand même l'adoration là, de Marie, qui est absolument spectaculaire. Le nard, apparemment, ça se trouve en Inde. Et donc, nard pur, un grand prix, ça pourrait coûter facilement le salaire d'une année. Et elle verse sur ses pieds et ça remplit toute la pièce. Ça montre à quel point il n'y a pas de limite à sa louange. C'est sûr qu'on ne peut pas être toujours dans un état d'extase, parce qu'on n'est pas créé pour ça. Mais il y a des moments. Et quand il y a des moments, la question à se poser, c'est quelle est la limite de ma louange? Je suis prêt à aller jusqu'à où, finalement, pour louer le Seigneur? Et là, elle nous montre un bel exemple. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de limite. Autant son amour, autant son adoration, il n'y a pas de sacrifice. Non. Elle se contente juste de l'adorer et de verser sur lui la chose la plus précieuse qu'elle a. Mais heureusement et malheureusement, l'histoire se développe. Mais je dis heureusement parce que ça nous donne quelques précisions. Malheureusement parce que nous voyons que Judas, déjà, son caractère mauvais a été déjà imprégné depuis longtemps. Verset 4, un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres? C'est triste, pour donner aux pauvres. Il disait cela, non qu'il se mette en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc effectivement, il paraît que les pauvres n'en avait pas ce que les autres pensaient donner. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Donc nous voyons que ça a coûté quand même un an. 300 denarii, donc était à peu près ça. Encore plus, ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit que cet acte qu'elle a fait était un acte prophétique. C'était pour son enterrement en 6 jours. Alors, on se demande, comment est-ce qu'elle a eu cette information? Il l'a dit plusieurs fois. Il répétait souvent qu'il devait être livré aux mains des chefs religieux et qu'il allait ressusciter. Il a même dit devant la foule incroyante, je vous donnais pas d'autre signe que celle de Jonas. En parlant justement de comment il serait enterré et ressuscité. Est-ce qu'il est possible qu'il commence à peut-être comprendre? Est-ce qu'il est peut-être même plus probable que c'est dans sa louange, peut-être, divinement utilisé par Dieu, qu'elle a peut-être compris, ou la connaissance lui a été donnée? Mais ce qui est absolument sûr et certain, c'est que sa geste de louange devient le geste dont on parle chaque fois qu'on lit cet évangile. Et ça, nous avons dans les autres évangiles, et ça continue jusqu'à aujourd'hui puisque nous venons de le lire. C'est les paroles de Jésus. C'est Jésus qui l'a dit, que ça soit ainsi et c'est accompli. On ne peut pas mesurer ou comprendre à quel point la louange est puissante, finalement. À quel point ça touche, à quel point ça dépasse. Peut-être pas de, comme de ce mesure-là, dans ce texte, mais dans les cieux, dans le monde spirituel, la puissance de la louange. Une chose merveilleuse. La foule nombreuse des Juifs apprit qu'il était là, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent afin de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'éloignaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Alors ça, c'est aussi triste qu'ironique, finalement. Ils veulent pas seulement tuer Jésus, parce qu'il a guéri un homme, parce qu'il a relevé des morts, mais ils veulent aussi tuer l'homme qui vient de ressusciter. Ça me dépasse. Au lieu de croire, tout simplement, on se dit, mais à ce moment-là, à quel point est-ce que ça serait trop difficile de croire? Ils sont en train de comploter, d'éliminer la preuve. Et c'est justement ça. Il est, à mon avis, beaucoup plus facile de prendre Dieu à sa parole. Mais trop souvent, nous compliquons des choses parce que nous savons, et y a plein d'autres raisons. Mais il y a un danger en ceci qu'il faut absolument souligner, c'est que il arrive un moment où, en fermant les yeux, en refusant toute évidence, on ferme le cœur et on ne peut plus revenir en arrière. Et c'est un acte personnel de foi qui est finalement complété par un acte divin, parce que nous choisissons une voie et nous continuons malgré tous les avertissements de Dieu. Et nous poussons les limites. Et Dieu est fidèle pour essayer de nous arrêter jusqu'à ce que nous dépassons la limite. Et puis, puisque nous avons poussé tellement, réclamé tellement, Dieu ferme la porte derrière nous. Porte que nous avons en réalité fermée nous-mêmes. Car il sait ce point dans nos cœurs quand trop c'est trop. C'est à l'image de ce que nous avons en Romains 1, qui est aussi à l'image de ce problème du péché. Et verset 18, nous lisons: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Car Dieu le leur a manifesté. Et puis, si on saute à verset 28, et c'est ça qui applique à ces gens-là, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, méchanceté, de cupidité, de perfidie, de plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, de rapporteur. Et puis, ça continue. Mais ce sont nos gens. Parce qu'ils ont fait ce choix intellectuel de refuser et de mentir contre la connaissance qu'ils savent, qui est vérité. Ben, bien sûr, ils savent que c'était vrai. Ils voulaient tuer le prophète. Ils savent aussi vrai qu'un voleur sait que ce qui a volé est vrai. Et les preuves, donc, de ces empreintes, ils le savent que c'est vrai. Mais comme ils n'ont pas jugé bon de garder ça, Dieu les a délivrés. Et nous voyons que finalement, il tombe dans une presque folie, finalement, parce que ça ne fait aucun sens. Mais ça n'était pas toujours le cas pour eux. Jésus a essayé de parler et nous voyons qu'ils s'endurcissent au fur et à mesure et ça devient de plus en plus dur jusqu'à ce point-là. Ils n'étaient pas aussi délibérés ou aussi méchants ou insidieux, mais ils le sont devenus un petit peu. On en a parlé hier de cette histoire des grenouilles. Si on veut faire cuire des grenouilles, il paraît qu'on le met dans l'eau froide et puis on le met un peu plus. Le chauffe pas jusqu'à ce qu'il cuise. Et c'est ça. Parce que la chaleur augmente tellement peu, sûrement, mais doucement, qu'ils ne savent même pas. Jusqu'à ce que c'est trop tard. Encore, c'est aussi leur choix. Verset 12. Le lendemain, la foule nombreuse de gens venus pour la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre et criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un anneau et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Sois sans crainte, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Les disciples ne comprirent pas cela tout d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et que, pour lui, il les avait faites. Alors la foule qui était avec Jésus quand il appela Lazare du tombeau et le ressuscita d'entre les morts, lui rend des témoignages. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre, car elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde est allé auprès de lui. » Alors, cette histoire étonnante, comment Jésus, il a déjà, grâce aux autres évangiles, nous savons, il a déjà tout préparé avec cette histoire d'Anon. En fait, il envoie même les disciples qui le cherchent et qui le mettent en place. Et puis, c'est pas comme il organise le spectacle, mais ça se passe spontanément. Les gens le font. Et il crie « Hosanna ». Et « Hosanna » est un mot hébraïque qui est répété dans le psaume de louanges qui chante dans les différentes fêtes, maintenant dans les fêtes de tabernacle, aussi parfois dans d'autres fêtes, quand ils montent les collines vers Jérusalem, ils le chantent, sont aussi des chants où l'Éternel sauve. Et c'est comme une acclamation, c'est comme une prière, une louange aussi. Et il lève ses branches et c'est un signe de respect. Ils font tout ça et ce n'était pas préparé. Tout ça, c'était spontané. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que selon la prophétie à la fin de Daniel 9, nous réalisons que Jésus arrive à l'heure exactement comme ça a été prédit longtemps avant. Mais cette petite phrase, verset 16, ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Pour eux, ils devaient chercher les choses. Et peut-être ils étaient un peu confus quand ils ont vu des gens et tout ce qu'ils ont fait. Peut-être ils ont aussi entré dans la fête, mais ils n'ont pas encore saisi ce qui s'est passé réellement, peut-être. S'ils avaient su, ils auraient cherché peut-être un grand cheval, comme des Romains, pour faire une entrée triomphale, vraiment qui impressionne les gens. Mais tout a été bien préparé. Et c'est après que les choses deviennent claires. Nous savons que les disciples avaient du mal à comprendre. Ils étaient lents à cœur. Même en regardant le tombeau vide, ils avaient du mal à croire. Pourtant, à la fin de Luc, rappelez-vous de cette histoire où il y avait ces deux disciples qui allaient vers qui étaient sur le chemin d'Emmaüs et qu'ils ont rencontré Jésus. Et pendant le chemin, Jésus explique toutes les prophéties et tous les psaumes et la loi et tout. Et ils ne réalisent que c'est Jésus jusqu'à ce qu'il brise le pain et qu'il bénisse. Alors, même avec ceci, nous voyons qu'il fallait que les disciples ils soient illuminés. Mais notez le bien aussi entre Actes, la fin de chapitre 1, quand il y avait Pierre et il donne son discours où il choisit le 12e disciple. Sa maîtrise de l'écriture et son autorité n'est pas le même que Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, c'est à 400% en comparaison. Là, il cite des écritures partout avec une maîtrise parfaite et il a une autorité absolument étonnante. Et c'est lui qui commande, on a l'idée, Jérusalem pendant un petit moment. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Alors, je crois qu'avec la puissance d'en haut, avec le Pentecôte, les disciples ont compris beaucoup plus. Tous ces enseignements de Jésus commençaient maintenant à atteindre le but. Et c'est justement ces enseignements et tout ce qu'ils ont reçu qui donnent à ces hommes leur autorité apostolique qui leur a permis finalement d'écrire le Nouveau Testament ainsi que Paul. Quand eux ils ont écrit, c'était de l'écriture. Et quand nous disons quelque chose animé par le Saint-Esprit, ça n'a pas du tout la même valeur. Ils étaient des hommes, nous voyons ici, des hommes capables d'erreurs, mais investis avec une grande connaissance. Là, le petit verset qu'il cite est un verset assez obscur en Zacharie, tiré du 9e chapitre, un peu, on dirait au hasard, mais non, c'est pas au hasard. Ça convient parfaitement. Ce qui s'est passé réellement. Nous nous réjouissons parce que c'est grâce à eux que, et bien sûr, ce qu'ils ont écrit, par le Saint-Esprit maintenant en nous, il nous enseigne aussi et il nous guide dans la vérité aussi. Verset 20. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis à André et à Philippe allèrent le dire à Jésus. Là encore, nous voyons, il y a André qui amène toujours les gens à Jésus. Voilà, dans son rôle principal, celui qui amène les autres à Jésus. Et là encore, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Et celui qui a de la haine pour sa vie, dans ce monde la conservera pour la vie éternelle.
Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.
Alors, c'est intéressant cette histoire de ces Grecs. Ils étaient très probablement des prosélytes. Parce que d'abord, ils sont identifiés comme Grecs, mais il est très peu probable que des gens qui n'avaient pas une ouverture quelconque envers la religion, que ces gens-là soient aussi proches du temple et de Jésus à ce moment-là. Et apparemment, ils ont entendu parler de lui et ils voulaient le voir. Prenons l'idée qu'ils étaient effectivement des prosélytes, qui est le plus probable des cas. Et ce qu'on a est une image assez touchante. C'est l'image de nouveau chrétien, si vous voulez. C'est quelqu'un qui se convertit. C'est pas quelqu'un qui prend les choses comme acquises. Mais c'est comme quelqu'un qui réalise que Zeus et Aphrodite et tout le reste, ça ne satisfait pas du tout. Mais il y a un seul véritable Dieu. Comme aujourd'hui, quand on réalise que le Dieu de pouvoir, le Dieu de la sexualité ne suffit pas, et on arrive devant le vrai Dieu. Et puis, il y a toute cette joie. Il y a aussi tout cet intérêt aussi. On veut fouiller dans des choses, on veut connaître. Il y a un certain excitement, il y a un certain électricité. Et c'est formidable. Et mieux ça que le contraire, le pur et dur qui a un peu de poussière sur sa Bible. Mais il vient, il entend parler de ce merveilleux rabbi, prophète, messie peut-être, et ils veulent le voir. Et comme on le mentionne en tant que les Grecs, oh, peut-être ils étaient un petit peu ostracisés ou mis à quart, est-ce que nous avons le droit, nous aussi? Eh bien oui. Ce n'est pas comme Jésus, il parle en l'air. Il n'a pas beaucoup de temps. Et ce qu'il leur donne, ce sont des choses qu'il donne dans d'autres évangiles. Des choses qu'on voit telles que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc autrement dit, c'est maintenant en fait, il y a quelques heures et c'est la fin de la mission là. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais il les reçoit quand même. Et en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, il parle aussi de sa résurrection, mais il essaie de le dire dans une façon qu'il puisse comprendre, une chose aussi naturelle qu'une plante. C'est la même image que Paul a utilisée en 1 Corinthiens 15, en parlant de notre corps qui est semé corruptible et qu'il ressuscite incorruptible. Nous voyons où Paul a eu son idée. Et celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie, dans le monde, conservera pour la vie éternelle. Ce sont des choses aussi répétées dans d'autres évangiles. Ce qui est formidable, c'est que, un peu comme avec Marthe, Marie et Lazare, le Seigneur n'est pas trop pressé. Il s'arrête et leur donne ce qui est l'essentiel. Ce dont ces gens ont besoin se trouve après sa résurrection. Mais ça trouve dans la foi en lui et en lui seul. Et donc il prend la petite seconde qu'il a, parce qu'il faut dire, il est pressé aussi par la foule. Il y a les interrogations des pharisiens. Il y a aussi le discours sur le mont des Olives. Il y a plein de choses qui se passent. Nous sommes dans les derniers jours, là, avant la Pâque. Donc il leur donne tout ce qu'il peut dans le petit moment qu'il a. Des choses importantes concernant leur salut, mais aussi comment vivre en tant que disciple. Si vous voulez vraiment suivre, il y a une manière de le faire. Il faut me suivre jusqu'au bout. C'est-à-dire, il faut, comme le Fils de l'homme, donc doit mourir et doit ressusciter, il faut que l'homme ancien meure et que la vie de résurrection entre en nous. C'est la même chose qu'il a dit à Nicodème. Si un homme ne naisse de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Aussi comme la femme samaritaine, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif, mais l'eau que je donne, tu n'auras jamais soif. C'est la même chose, que c'est en lui et en lui seul. Et s'il sert, et voilà cette merveilleuse promesse, le Père l'honorera. Peut-être vous êtes mis à cœur par les autres. Peut-être vous n'êtes pas valorisé. Quelqu'un qui sert Jésus, c'est le Père qui l'honore. C'est la promesse de Jésus. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. C'est que maintenant, il y a cette conversation personnelle, mais entendue par tous entre le Père et le Fils. C'est le pré-Gethsémané, mais avec beaucoup plus de détermination, de force de sa part. Il sait qu'il ira jusqu'au bout. Mais en le faisant, c'est pas pour sa propre gloire, mais c'est pour que le Père soit glorifié. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Père est glorifié. Et la foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient un ange qui a parlé. Ça, c'est un verset. C'est un verset quand même important de garder. Parce que c'est le verset qui nous explique pourquoi il y a des gens qui ne comprennent jamais rien. Ce sont des gens qui posent des questions tant que je n'ai jamais entendu la voix de Dieu, ou tant que Dieu n'écrit pas mon nom sur le ciel, ou tant que Dieu ne dit pas de voix audible, peut-être Dieu l'a dit, mais tu n'as pas écouté. Ou bien, s'il l'avait fait, vous ne l'écouterez jamais. Parce que pour celui qui ne veut pas croire, toute excuse est bonne. Ils ont entendu la voix audible. C'est pas comme Dieu prononce mal une parole. Ils ont bien entendu. Et puis, ça peut être le tonnerre. Vous rendez compte? Mais c'est ça l'incrédulité. Ou les autres plus spirituels. On ne veut pas croire forcément dans ce Dieu. Ou qu'il y ait un seul Dieu. Il y avait un ange. Il y avait une manifestation spirituelle qui s'est passée. Non, c'est la voix de Dieu qui a dit tout explicitement qu'il va glorifier son nom au travers de la mort de son Fils. Mais qu'est-ce qu'on peut dire dans une telle situation? Jésus dit, il reprit la parole, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Et maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Il nous donne un petit aperçu dans le jugement. C'est vrai qu'il y a un jugement final, le jugement devant le trône blanc. Mais il y a une autre partie de cela, et c'est que le jugement a commencé avec la croix. C'est lui qui l'a dit. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde. Et puis, il lit ça avec la croix. Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirai tous les hommes à moi. Pourquoi la croix et le jugement? C'est parce que la croix est la chose qui divise le monde. Parce que c'est la croix où soit on est pris dans le bon côté, dans le côté de grâce, soit on n'est pas. Le jugement est déjà commencé. Et ça commence là. Et ça commence chaque fois donc que nous annonçons la bonne nouvelle finalement. Que nous annonçons parce que nous amenons la croix à eux. Cette occasion pour eux d'aller à la vie, d'accéder à la vie. Mais s'ils le refusent, Dieu est juste. Et le jugement est tombé. Alors, il faut dire que Dieu donne parfois plusieurs chances. Je sais qu'il a fait pour moi. Il y avait plusieurs personnes, je remercie Dieu pour ça, qui ont partagé la bonne nouvelle avec moi, malgré les fois que j'ai rejeté. Mais nous savons tous que le lendemain n'est promis à personne. Et Dieu peut tout arrêter à n'importe quel moment. Et là, ce serait trop tard. Le jugement a commencé, donc, à la croix. Et donc, ça nous donne cette perspective quand nous partageons notre foi. À quel point c'est sérieux. Ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas une manière d'être. Ce n'est pas ce qui est de mieux dans notre vie. Ce n'est pas pourquoi je souris. Mais c'est, en fait, c'est la vie, la mort qu'on leur offre. Et c'est important de garder ça à cœur. C'est important pour nous, pour qu'on n'ait pas peur. C'est important pour eux aussi, parce que le royaume de Dieu est venu jusqu'à eux. Mais il y a cette autre partie de la croix que je trouve beaucoup plus réjouissant, c'est que aussi le diable sera jeté dehors. Le diable est vaincu. Il est vaincu par Christ. C'est lui et lui seul qui peut. Jésus-Christ a la victoire totale sur le diable. Ses jours sont comptés. Et le Dieu Tout-Puissant va s'occuper de lui parfaitement. Et le Dieu qui a écrit dans sa loi un œil pour un œil, une dent pour une dent, qui a une justice absolument parfaite, nous pouvons être assurés que le sort réservé au prince de ce monde est juste. Alors nous nous réjouissons, pas avec une regard hautaine, parce que ça ne vient pas de nous. Et nous ne sommes pour rien, en fait. Mais parce que nous suivons le grand, puissant et victorieux, majestueux sauveur qui a vaincu pour toute éternité le diable. Verset 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière.
Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cachait loin d'eux. Et pour ces gens-là, ça se peut que ce sont les dernières paroles qu'ils entendent de sa bouche. Il résume ce qu'il a dit, ou ce qu'il disait, depuis ces autres chapitres. Et notez-le bien, il dit de marcher à la lumière, devenez des enfants de lumière. Et puis, il se cache. Il se cache. C'était leur réponse. Malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui afin que soit accomplie la parole dite par le prophète Isaïe. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire parce que Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est ce que dit Isaïe lorsqu'il vit sa gloire. Il parla de lui. Encore, comme on a dit avec Lazare, ils ont poussé trop loin et se sont trouvés finalement aidés par Dieu dans leur incrédulité. Car ils ont tellement insisté, ils l'ont préféré au-dessus de la lumière. Et donc Dieu leur a laissé finalement. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas pour ne pas être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est un des versets les plus tristes, plus désolants de la Bible, car ils aimaient la gloire des hommes. Combien de temps ça dure? La gloire des hommes, ça se tourne vite. Nous voyons facilement avec nos hommes politiques à quel point la gloire devient le ridicule. La gloire des hommes. Ça tente tellement, mais c'est creux, vide. Alors que Dieu nous réserve une meilleure éternelle gloire. Jésus cria, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui me reçoit par mes paroles à son juge, la parole que j'ai prononcée, c'est celle qui le jugera le dernier jour. Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé et qui m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce que je dois parler. Je sais que son commandement et la vie éternelle. Ainsi, ce dont je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit. Et avec ceci, il termine son ministère public. C'est probablement les dernières choses qu'il dit même dans le temple, dans les environs. Notez combien il essaie encore. Encore il tend la main. Mais le jugement, le juge, il dit finalement c'est sa parole. Encore, le jugement a commencé à croire. Ce sont des paroles de Christ. Si nous croyons à sa parole, si nous croyons que tout ce qu'il a dit est vrai, croyons à ce qu'il a fait, il y a la vie éternelle, il y a ce bon côté, mais si, non, il est très clair qu'il n'est pas d'avenir spirituel, là. Mais plutôt de condamnation. Mais regardez ce que le Père veut. Le commandement même, c'est la vie éternelle, verset 50. C'est son commandement. C'est pas son plus grand souhait. Son commandement. Un verset sûr et solide sur lequel nous bâtissons notre foi, sachant que notre salut est sûr parce que c'est ordonné par le Père lui-même. C'est Jésus qui le dit. Si nous croyons en lui, nous sommes en lui et nous voyons le commandement du Père, car les commandements de Dieu sont d'amour, ne sont pas pénibles. Donc finalement, au lieu d'être pénible, c'est plutôt la vie, c'est l'amour, et c'est tout en Jésus-Christ. Prions.